Chromosphère. Chromosphère, la très sexuelle émission de Radio Campus Grenoble. J'ai quelque chose à vous dire. J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est décidé, je me lance. Je suis une femme. Pas au sens biologique du terme, mais pour bien me le rappeler, il y a un petit M sur ma carte d'identité. Non, je suis une femme sociale. Et d'ailleurs, des femmes sociales, chez les hommes, il y en a plus qu'on le pense. Même chez les hétéros, pas besoin d'être gay. Pour moi, être une femme sociale, c'est avoir dans ses comportements une majorité de comportements traditionnellement attribués aux femmes biologiques, de façon fort machiste d'ailleurs. Une question drôle, quoi. Par ailleurs, par exemple, je m'occupe moi-même de mes tâches ménagères. Vous voyez ce que j'entends par attribuer de façon fort machiste aux femmes biologiques ? Mais heureusement, ma vie n'est pas remplie de tâches ménagères. Non, j'aime discuter autour d'une tisane ou d'un muscat bien liquoreux, écouter mes copines raconter leurs histoires. J'ai un certain goût pour les fringues, surtout en solde. J'adore cuisiner des bons petits trucs à mon homme. Et si on sort, je peux passer des heures dans la salle de bain avant pour me maquiller, pendant pour me refaire une beauté, et après pour me passer la face au Karcher. Bref, je suis dans la droite lignée de la femme éternelle et intemporelle vantée par les pubs de parfums qui puent, un cliché hétéromachiste ambulant. Mais... Alors que je dissertais allègrement sur le sujet, on m'a alors un jour rétorqué « Sauf que t'aimes quand même bien me prendre par derrière !» À quoi j'ai répondu à ce charmant garçon, sûr de sa masculinité, que je ne l'avais jamais forcé, que lui-même éprouvait un certain plaisir à mes explorations, et qu'il ne s'en considérait pas femme pour autant. Ah ! Alors que de mon côté, étant de surcroît lesbienne sociale, j'avais sur lui un regard un peu différent. Tout est une question de critères. Néanmoins, je n'avais pas à me prononcer sur ce qu'il était. Ça aurait été nier l'image qu'il avait de lui-même, et par-dessus tout, ça aurait été une preuve d'irrespect profond. De quoi saper tout mon patient travail attentionné de cuisinière attendrie. Mais revenons à nos moutons. La question est donc, peut-on être une femme active ? Et la réponse semble couler de source. Ça fait longtemps que la femme au foyer n'est plus une norme. La femme a son propre salaire, son propre boulot. Alors il est temps que son mec découvre les autres aspects de la femme active. Je sais bien sûr qu'il pourrait être mal vu, mesdames, de proposer cela à votre ou vos chéris. Aussi, vais-je vous simplifier la tâche. Donc, j'imagine que vous soyez incapable d'être une force de proposition, mais disons que le sujet abordé par l'intermédiaire de la radio peut amorcer un débat à l'issue aussi jouissive que constructive. Aussi, je vais vous demander d'aller chercher l'homme de votre vie du moment, à moins qu'il soit déjà là, voilà, qu'il s'installe confortablement près du poste, assis de préférence, ce qui lui évitera de tomber trop haut. Voilà, donc je vous laisse un peu de temps pour le faire. Je vais le meubler en faisant un tout petit peu de publicité pour Ève Maison Citoyenne à thématique sexe, qui se passera le 10 et 11. Donc si vous écoutez la rediffusion, c'est maintenant. c'est le lundi 10 et le mardi 11. Au cours de cette Ève Maison Citoyenne, il y aura bien toute une somme de choses organisées par Jeu Égal, organisées par l'AEMD. Ils viendront nous en parler en fin d'émission, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fera une émission spéciale avec une rediffusion de l'émission sur les transsexuels qu'on avait eu, transsexuels masculins qu'on avait eu il y a quelques mois déjà, mais qui reste très d'actualité dans son contenu. Et les étudiants de l'AMD viendront nous parler en fin d'émission pour remplacer le défunt agenda. Voilà. Bon, votre mari est là ? Bon, ben, parfait. Ok. Bonjour monsieur, c'est la chromosphère qui vous parle. Vous demanderez plus tard ce que c'est que la chromosphère, le sujet n'est pas là. Monsieur, montrez-nous que vous êtes un homme libéré de ces complexes machistes. Montrez que vous êtes un ardent défenseur de l'égalité femmes-hommes. Montrez qu'en personne curieuse, les expériences sociales vous intéressent. Offrez un gode-ceinture à votre femme chérie. Découvrez la femme active sous un jour nouveau. Découvrez que la prostate n'est pas seulement une boulette ennuyeuse qu'il faut faire surveiller après sa 50 ans. Découvrez à deux qu'un homme ne se résume pas à un marteau-piqueur qui lit l'équipe magazine, mais qu'il a lui aussi un point G. Cherchez-le, trouvez-le, mais je vous suggère d'aller quand même doucement au début et surtout d'utiliser du gel. Ainsi, vous découvrirez des plaisirs que vous êtes cruellement interdits. un peu comme l'était la masturbation au Moyen-Âge. Merci de votre attention et faites-vous plaisir. Voilà, la discussion est amorcée. Maintenant, les filles, c'est à vous de jouer. Je suis sûr que vous saurez être persuasives. Bien sûr, vous trouverez sur Internet tout un tas de conseils pour que l'été couverte de votre chouchou se passe bien. Lenteur, patience, gel, etc. Je vous fais confiance. Dites-vous bien que l'égalité femme-homme passe aussi par là. Il serait très injuste qu'ils ne puissent pas connaître ces plaisirs. Hein, imaginez que leur statut de dominant a été très très abîmé au cours de ces dernières décennies et qu'il serait nécessaire de leur montrer que, de leur point de vue aussi, il y a des avantages concrets à l'égalité. Alors, militez bien, faites-nous part de vos remarques sur notre mail, hein, chromosphere@campusgrenoble.org. Mais par contre, avant de commencer les activités militantes, attendez juste la fin de l'émission. Merci beaucoup. Et on va commencer cette émission avec un disque qui s'appelle Menswear. Oui, peut-être vous en souvenez-vous, c'était Florence à cette époque. Et oui, vous allez retrouver toute la charmante équipe. Florence, Clara, Monsieur, Madame Ben et Loïc le Foc. Fringant, on se retrouve nous pour un vrai direct d'ici une petite demi-heure. À tout à l'heure.
Daydreamer.
Donc, comme le dit si bien le chanteur Johnny, on vient de s'écouter Daydreamer de Menswear. Alors, Menswear, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est le fameux groupe briton originaire de Londres qui avait été signé, fait très rare, dès un cinquième concert. Ils étaient passés dans des émissions musicales alors qu'ils n'avaient pas encore d'album. Donc, par la suite, ils ont splitté, comme tous les groupes fusés des années 90-2000. Et le guitariste s'occupe maintenant de Bloc Party, c'est leur manager, voilà.
Bon, ça fait beaucoup de mots que moi je ne comprends pas, mais toi, auditeur, auditrice qui est intelligente et calée en musique et en vocabulaire de production, sans doute tu sais ce que c'est qu'une Bloc Party, ce que c'est qu'un groupe briton, etc., etc. On retrouvera les Menswear au cours de cette émission. Nous allons donc passer à l'interview du jour. J'ai oublié de vous présenter tout à l'heure Florence, qui vous a désolé annoncer le disque.
Bonsoir, bonsoir.
Voilà, il y a Clara qui est encore silencieuse, mais plus pour longtemps.
Bonsoir, Ben.
Voilà, on va plus arriver à la faire taire maintenant. Et puis, Loïc.
Oui.
Et puis, nous allons recevoir maintenant Evan et Émilie qui vont nous dire bonjour d'abord.
Bonsoir.
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 Alors, cherchez
un
la truc.
Encore tard.
Alors,
eh ben, je dis bonjour aux invités.
Bonjour aux invités. Bonjour. Alors, Evan, Émilie, alors, ce ne sera pas un secret longtemps, mais Evan et F2M.
Voilà.
D'accord. Et donc ce soir, la thématique de ce soir, ça va être le alors, première question, transsexualisme, transsexualité ?
Vaste sujet que la façon de d'appeler les transgenres, ça fait beaucoup débat. Parce qu'il faut savoir donc souvent transsexualité, on fait penser à sexualité. Et donc le problème de la transsexualité n'est pas un problème de sexualité ni d'orientation sexuelle, c'est un problème d'identité de genre, donc de reconnaissance dans le masculin ou dans le féminin de sa propre personne. Donc on va peut-être partir sur transgenre tout simplement.
Transgenre, d'accord.
Ce qui sera le plus simple.
D'accord.
Et c'est quoi F2M ? Parce que bon, Benjamin, il parlait des initiés, mais il y a peut-être plein de gens qui ne savent pas.
Excusez-moi, amie innocente. Bonjour, amie innocente. Bonjour. Bon, alors c'est vrai, c'est une mission d'actualité destinée aux hétéros aussi. Donc F2M, qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc tout simplement, ça veut dire female to male. Donc en fait, c'est la transsexualité de femme vers homme, et qui a donc son opposé, c'est donc M to F, male to female. Donc pour les transsexuels qui vont de homme vers femme.
D'accord. Alors, on va pas trop parler des M2F ce soir parce que à titre personnel, je trouve que c'est des personnes qui sont déjà très médiatisées et qu'on parle beaucoup moins. Oui, excuse-moi. Oui, alors Clara,
oui, par rapport au F2M, mais voilà. Par rapport à l'ensemble de la population.
Oui, bon. Certes, dans l'absolu, bon, effectivement, c'est systématiquement dans des reportages sur la prostitution. D'accord, ok, soit. Oh, bah, si, c'est vrai, c'est systématiquement dans ce genre de reportage.
Non, ça peut être sur les nuits parisiennes aussi, mais bon.
C'est de
l'eau. Cabaret, hein. Tout ça.
Bref.
Ça commence à changer un petit peu au niveau de l'image médiatique. Où on retrouve une image qui est plus proche de la réalité. C'est sûr qu'on retrouve un peu tous les cas de figure. C'est vrai qu'il y a des problèmes de prostitution. Il peut y avoir ce genre de choses. Mais il y a une très très grosse majorité de personnes transgenres qui ont une vie tout à fait, on va dire, conventionnelle.
Habituelle, oui.
Habituelle, voilà.
Mais ça, c'est pas forcément... évident pour les médias d'arriver à faire passer cette image-là, c'est quand même vachement plus facile, la paillette savant, hein, faut dire ce qui est. Enfin bref, à mon sens, les F2M sont pas assez, passent pas assez sur les antennes. Je te propose de parler, on va rester F2MO, c'est-à-dire on va pas trop parler de la tête de la transidentité en général, mais être F2M, alors. Je propose qu'on rentre immédiatement dans les détails, hein, comme ça.
Oui, parce que moi j'ai rien compris là. F2MO ?
Non, je disais que nous allons rester, on va rester dans le domaine des F2M. Je suis désolé de ne pas être clair, hein, mais cette émission va à volo, je ne vois aucune question sur les tables, ni chez moi, ni chez
vous. Non, mais je vois pas pourquoi on resterait dans le domaine des F2M si, par exemple, t'as des potes qui ont connu ce genre de procès, mais en sens inverse. Bon, c'est procédé, tu veux dire. Oui, procédé. Non, mais, et à force d'écrire en abrégé, de parler en abrégé, tu finis par, ouais, voilà, par tronquer tes mots, même s'ils sont courts déjà à l'origine. Ouais, donc peut-être t'as des expériences dans ton entourage qui donnent envie de parler que de ton cas, pas que de ton cas perso.
Disons que j'ai surtout donc les connaissances du côté donc FTM, puisque je suis directement concerné par l'État, et que donc j'essaye aussi d'avoir des actions pour informer les gens via le net sur ce thème-là principalement. Donc effectivement, j'ai quelques connaissances sur les MTF, donc dans l'autre sens, mais c'est vraiment pas, j'ai vraiment pas les compétences pour répondre à des questions précises sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment, je suis venu plus pour parler des FTM qui ont aussi besoin de plus de visibilité, parce que c'est vrai que c'est au niveau, c'est quand même une minorité, et en représentation médiatique, c'est on est vraiment les parents pauvres, quoi.
Alors explique-nous, au niveau de ton site sur le net, ça consiste en quoi, ça se présente comment?
Donc en fait, le principe du site, je vais peut-être donner l'adresse, donc c'est ftm-transsexuel.info. Donc en fait, la vocation de ce site est simplement de donner sur un lieu très localisé l'ensemble des informations, je vais dire, techniques liées à la situation transgenre des FTM, donc c'est-à-dire les procédures chirurgicales, hormonales, et également tout le côté plus juridique avec les changements d'état civil, comment s'en sortir pour trouver un boulot quand on est un peu entre les deux, qu'on ne sait pas quel prénom mettre sur son CV. Quelles sont les choses pour se rendre la vie plus quotidienne avant même d'avoir entamé un parcours, et pourquoi pas aussi pour des gens qui sont plus en questionnement, peut-être par le biais de témoignages, se reconnaître et essayer de parfois de mettre un nom sur leur malaise.
D'accord, donc justement en fait c'est quoi le parcours d'un trans ou d'une trans, et toi, puisque là tu nous sers un peu de témoin, ton histoire perso, donc pour que les auditeurs y comprennent bien, t'es né dans le corps d'une petite fille et maintenant t'es un garçon.
Voilà.
Plutôt beau gosse d'ailleurs.
Merci.
Je t'en prie.
Disons que le parcours, c'est déjà une démarche très personnelle pour chaque individu. Donc ça part surtout d'un problème de reconnaissance de genre, et ça commence très très tôt durant l'enfance. Donc tout à l'heure on parlait de jouer sexiste, mais effectivement on peut se retrouver plus à désirer des jeux de petits garçons plus que de petites filles, avoir des comportements qui sont dits de garçons manqués, etc. Je parle aussi par mon expérience personnelle, c'est pas...
Non, parce que je pense que je vais devenir un homme aussi, si. Mais j'ai toujours su. Je t'en prie.
Non, et après ça devient beaucoup plus fort, parce qu'il y a pour la majorité, donc il y a un rejet du corps, il y a un rejet de l'identité que l'on renvoie aux autres, avec un pic très fort de ce malaise quand on arrive à la puberté avec les modifications du corps. Là ça devient très problématique, on s'interroge beaucoup parce qu'effectivement la réalité nous renvoie un corps et nous on ne se ressent pas du tout de la même façon.
En fait, c'est comme si tu étais étranger dans ton propre corps, quoi.
C'est tout à fait ça. C'est un peu vivre la vie dans derrière une vitre. Donc on voit la vie mais on n'a pas l'impression d'en faire partie et d'y participer, parce que tout simplement on n'arrive pas à exister face aux autres.
Et alors après, la décision d'avoir un corps qui correspond à ce que tu es, le parcours, comment ça se déroule, tout ça?
Déjà, poser un mot sur un mal-être procure un apaisement. On a l'impression qu'on a des kilos en moins sur les épaules, puisqu'on se dit qu'on peut arriver à faire quelque chose et à arriver à être bien. Donc à partir de là, c'est un peu la course au médecin, puisque les solutions qui existent sont des solutions médicales, chirurgicales et hormonales. Donc généralement, ça commence par une visite chez un psychiatre.
Ah oui. La psychiatrisation,
j'adore.
Et comment fait-on pour trouver un psychiatre relativement open sur ces questions?
Alors on essaye de se renseigner par le bouche à oreille. Donc c'est vrai qu'il y a des communautés sur le net qui existent et qui peuvent permettre par des échanges de noms de trouver des personnes plus ou moins ouvertes sur la question et pour avancer. Mais c'est pas... trouver des noms n'est pas une tâche aisée. Et sinon, reste la méthode page jaune. On prend rendez-vous et on voit comment ça se passe.
Et ensuite, on fait la tournée des Grands Ducs.
Voilà. Okay. Donc, quand tout se passe bien, on se retrouve avec un accord du psychiatre pour entamer donc un traitement, une hormonothérapie. Donc, pour le cas des FTM, qui est à base donc de testostérone. Sous forme d'injection, enfin il y a divers produits pour cela. Et donc dès les premières injections, les modifications physiques vont apparaître petit à petit sous la forme d'une puberté classique.
Ok, je propose qu'on en parle un peu plus après la seconde plage disque. Ouais, l'émission a démarré. Youpi. Yeah.
Manage Somehow, c'était le second extrait de Manswear.
Merci Florence. Et nous continuons, vous êtes toujours dans Chromosphère, l'émission LGBTH de Radio Campus Grenoble jusqu'à 19h30. Et nous continuons le dossier du jour, F2M, Female to Male, avec Evan, Clara, Florence, Loïc et Ben.
Et Émilie,
oui. Qui n'a pas dit grand chose, mais qui n'en pense pas moins, j'en suis certaine. Alors, on en était
resté après au traitement hormonal.
Ouais, voilà, on était resté au traitement. La suite de ce délicieux parcours.
Donc, la suite de ce délicieux parcours se passe dans les blocs opératoires.
Alors, une petite question avant de parler opération. Niveau traitement hormonal, faut compter quelle durée, quelle...
Alors, les effets du traitement hormonal sont en fonction de chaque individu. Les gens réagissent plus ou moins vite au traitement. Donc ça dépend du patrimoine génétique. Les premiers effets sont visibles très rapidement. Par exemple, pour la mue de la voix, ça prend entre 2 et 3 mois. Donc, c'est quand même très très rapide. Et l'effet le plus lent, c'est l'apparition de la barbe, qui prend, pour moi, ça a pris un an pour avoir.
C'est mignon ce petit bout là.
Voilà, pour avoir une barbe normale.
Tu allais empiéter sur l'opération, mais est-ce qu'il y a toujours ce délai nécessaire de 2 ans de consultation psychiatrique avant
non.
de pouvoir être opéré? Ah, ce n'est plus le cas.
Non, ça n'a jamais été le cas. Il n'y a aucun texte de loi au niveau de la sécurité sociale imposant un parcours de 2 ans. Ce sont des choses qui sont imposées de façon relativement arbitraire par certaines équipes médicales.
D'accord. C'est bon à savoir. Hein.
On veut des noms. À Lyon, par exemple. Le Caritique, allez.
Disons que le seul bémol qu'il y a vis-à-vis des opérations, disons que les 2 ans ont tendance à être imposés avant même de commencer le traitement hormonal, sans même parler d'opération. Il faut savoir que le seul texte de loi présent au niveau du Code de la Sécurité sociale pour les opérations se situe au niveau de la phalloplastie.
Donc, phalloplastie,
donc c'est une opération qui permet par un système d'autogreffe de créer un pénis. Donc par contre pour celle-là, si on veut être opéré en France et pris en charge par la sécurité sociale, il faut pouvoir justifier de 2 ans de suivi auprès d'un psychiatre. Oui. Voilà. Mais pour le reste, donc c'est-à-dire pour l'obtention d'une hormonothérapie et pour la première des opérations qui est la mammectomie, donc on refait le entorse masculin. Il n'y a aucune loi imposant ce délai-là. Donc on peut tout à fait réaliser un parcours dans des délais beaucoup plus courts.
Mais en revanche, pour le changement d'état civil, combien il faut d'opérations?
Alors pour le changement d'état civil, tout dépend des jurisprudences en cours dans les différents tribunaux de grande instance. Il faut savoir qu'il n'y a pas quelque chose d'homogène en France à ce niveau-là. Il y a quand même beaucoup de retard, même par rapport à des pays comme l'Espagne.
Homogène. Non, il n'y a pas de jeu.
Donc en fait, suivant les tribunaux, certains demandent simplement d'avoir une hormonothérapie, une mammectomie. D'autres demandent, la plupart du temps, on demande qu'il y ait un état de stérilité. Donc pour les FTM, c'est aussi une autre opération qui vient après la mammectomie ou qui des fois se réalise en même temps, c'est l'hystérectomie, donc où on retire l'ensemble des organes sexuels féminins internes. D'accord. Donc à partir du moment où on peut justifier d'une hormonothérapie et d'une stérilité, pour la plupart des tribunaux, c'est bon. Il faut savoir qu'on peut quand même essuyer un refus. On n'est pas obligatoirement, l'état civil n'est pas changé obligatoirement. Et dans ce cas-là, il faut faire des recours auprès de la Cour de cassation, puisque la France a été... traîné devant la Cour des droits de l'homme en 92 et elle a pris un bon coup de pied dans les fesses, mais dans les faits ça s'applique pas encore systématiquement. Il faut parfois recourir à des appels, il faut pas se laisser faire quoi.
Mais ça coûte cher de devenir trans, un avocat, un psychiatre, un chirurgien, mais t'as des amis à la fin, c'est pas possible, c'est plus des...
Alors c'est vrai que bon, au niveau des avocats, bon, ça a un coût. Faut savoir qu'on peut aussi passer par l'aide juridictionnelle suivant son état financier. Pour les psychiatres, il suffit de chercher un psychiatre qui est revendiqué secteur 1 par la sécurité sociale pour être entièrement remboursé. Il faut savoir que le traitement hormonal est également pris à 100% on est remboursé à 100% par la sécurité sociale et par les mutuelles. Le bémol reste le prix des opérations.
Puis il faut accepter de passer pour un malade aussi quand même.
Alors ça, c'est une autre revendication, donc de sortir la transsexualité des maladies mentales.
Ce qui est
encore le cas.
C'est encore le cas au niveau de l'OMS, par exemple, ou
Oui.
Ah, d'accord.
Okay. Ça double tranchant parce que le jour où ça sort des maladies, voilà, la sécurité sociale.
Remboursement, ouais, zéro.
Pas forcément sûr.
Je sais pas.
Disons qu'ils veulent changer la classification, quoi. Actuellement, c'est classé en, je sais plus le numéro, mais c'est classé en maladie.
Arme de catégorie.
En maladie mentale, vraiment.
Béton.
Ouais, vraiment ardu. Béton. Ouais, vraiment ardu. Alors que.
T'as l'air.
Y a pas rien. J'ai l'air. Hein.
Qu'est-ce que tu voulais dire, Clara?
J'avais plein de questions, comme d'hab, mais bon, parce que moi, je prépare bien mon émission.
J'en vois quatre sur un feu.
Je prépare 5 minutes avant. Mais j'ai beaucoup d'imagination. Donc, en fait, oui, ce que je voulais savoir, donc, ça fait combien d'années que tu es légalement un garçon? Enfin, je sais pas si c'est légalement, mais physiquement.
Alors, légalement, toujours pas.
Toujours pas.
Légalement,
d'accord.
Toujours pas.
Et physiquement.
Changement d'état civil n'est pas fait. Et physiquement, où les modifications ont été entamées. Donc, ça fait un an et demi.
Un an et demi, d'accord. Voilà. Et dans ton entourage, tes proches, tout ça, ils ont pris ça comment?
Alors, il y a toujours le problème douloureux et épineux de la famille. J'ai eu la chance, après une première réaction plutôt négative, que les choses se débloquent pour aujourd'hui arriver à une situation où je suis soutenu par ma famille. Donc, il y a quand même eu un grand... J'en étais arrivé à un point où je ne pouvais plus rester comme ça, donc j'étais arrivé au bout de la route, et soit je continuais pour être vraiment moi, ou j'arrêtais tout, sans strict du terme.
C'est-à-dire, en gros, tu te suicidais, quoi.
Ouais, on partait sur le suicide.
Pour ceux qui n'ont pas compris.
Voilà. Donc, d'un commun accord, j'ai pas fait ça. Enfin, ça s'est fait de façon ouverte avec ma famille. Et en voyant donc l'épanouissement qui a suivi les premiers effets de l'hormonothérapie et de devenir simplement soi, ça procure une énorme libération, ce qui fait qu'on, pour beaucoup, on devient beaucoup plus ouvert, on parle beaucoup plus facilement, on fait des projets d'avenir. Et je pense que pour l'important pour des parents, c'est de voir leurs enfants heureux et qui vont de l'avant dans leur vie. Et donc, à partir du moment où ma famille a vu ça se produire chez moi, les choses ont vraiment bien évolué. Bon, j'ai aussi eu de la chance, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des cas où les parents restent très fermés à cela, et ça peut même aller jusqu'à des ruptures casser tout lien de façon plus ou moins définitive.
Et tu travailles,
Ah oui, je travaille, oui.
Et dans ton boulot, ils ont...
Non.
Ils
non,
savent
non,
ils...
Non, dans mon boulot, seuls mes supérieurs directs sont au courant du fait de
l'état civil.
Du fait de l'état civil. Ouais. Et donc, je suis tombé sur des gens très compréhensifs et qui m'ont dit qu'ils m'embauchaient pour mes qualités. Et donc, il n'y a pas eu de problème.
Il y a des médailles, hein, c'est vrai.
Ah, il y a des gens
tellement rares.
Il faudrait qu'il y en ait plus, mais bon, il y en a.
Mais explique-nous au quotidien comment ça se passe, vu que tu nous indiques la procédure au niveau du changement de l'état civil est toujours en cours, vu qu'on sait très bien au niveau des tribunaux à quel point c'est long en France, ils sont surchargés, ainsi de suite. Les délais d'instruction sont très longs. Au quotidien, quand tu dois présenter un document, une pièce d'identité pour X raisons, comment ça se passe?
Alors généralement, pour le moment, ça s'est toujours très bien passé. Il suffit tout simplement d'expliquer qu'on est en attente de changement d'état civil. Et généralement, soit ça suscite de l'interrogation et on peut avoir des regards interrogateurs, mais finalement les gens osent peu, surtout sur des démarches ponctuelles, ils osent peu aller plus loin dans la démarche. Mais on peut tomber aussi sur des cas... ça peut arriver.
Un contrôle de police, par exemple, ça peut...
Un contrôle de police, il suffit d'expliquer les choses simplement, hein, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il faut surtout être soit rester calme par rapport à ça, et pas se bloquer, parce que c'est là où effectivement la personne en face peut ressentir un malaise, ça peut mal partir. Mais il suffit de rester simple, et pour les trois quarts du temps, je veux dire, ça pose pas de problème.
Alors là, on parlait de contact classique avec l'environnement de tous les jours, mais comment ça se passe au niveau affectif lorsque tu rencontres des charmantes demoiselles comme celle qui est à côté de toi?
Ou des charmants monsieur tout de suite.
Non, mais là en l'occurrence c'est une charmante demoiselle.
Tu sais pas.
si, si, je confirme. mais de toute façon, même si à la base c'était un monsieur, je vais te dire, là, visiblement, elle est transformée, ça. Donc, Et donc, ça fait un an et demi que vous êtes ensemble. Voilà. Donc, puisque tu disais que tu avais commencé le traitement il y a à peu près un an et demi, ça veut dire que vous avez vécu ensemble tout ce parcours et tout ça.
Vous pouvez vous échanger le micro, ouais. Tout ça.
Émilie, tu peux parler, tu as le droit. Et même tu si tu es une femme, tu sais, tu as le droit.
Oui, oui, oui. Dans cette émission, nous sommes ouverts à la parole des femmes.
Oui, en fait, on s'est connus il y a un an et demi. Et j'ai vécu tout ça avec lui, mais de toute façon, je connaissais déjà le problème du transsexualisme avant. Donc, je savais dans quoi je m'engageais, ça ne m'a posé aucun problème.
D'accord.
Un petit air mignon.
Donc en fait, on s'est connus, moi, à mon tout début du traitement hormonal. Donc ça a été, ça s'est fait naturellement, quoi.
Donc elle n'est pas là pour ton physique, quoi.
Bon, ouais, si, un peu, j'espère.
Si, aussi.
Aussi.
Que pour ça.
Ah, que. Ah.
Donc, Evan, tu n'as pas de cerveau, mais c'est pas grave. Hein.
Ah, mais je suis beau, ça compense. Oui.
Alors, histoire d'amour. Oui, bah oui.
Vos projets. On est dans voici
on
nous deux
on
là.
On tombe dans le voyeurisme là, non. Non, non, mais moi j'aimerais bien qu'on reparle de cette histoire de genre, sexualité, identité, bastringue là. Pouf. C'est quoi cette jungle là? Tu nous dis que ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais qu'en même temps.
Non, non, il a dit que la sexualité c'était très limitatif par rapport,
au problème
par rapport à son identité. Ouais, c'est comme homosexualité, c'est toujours pareil quand tu te définis comme ça.
Oh, Florence en force.
Disons que le problème de la transsexualité, c'est un problème d'identité de genre et de reconnaissance dans un genre masculin, féminin, ou suivant les gens, entre les deux. Donc c'est vraiment un problème de ressenti, et puis ça peut renvoyer à des problèmes de société sur la définition du masculin et du féminin dans notre société moderne, avec tout ce que ça peut impliquer. Au niveau encore des différences de salaire, de plein de choses. Et le problème, c'est que on peut être transsexuel et hétérosexuel, transsexuel et homosexuel. Et souvent, il y a un amalgame. Et bisexuel. Et donc, il y a souvent un amalgame de la part de gens qui ne connaissent pas trop le problème quand ils entendent le terme transsexuel, ont carrément une image très négative de perversité sexuelle. Ça peut aller très loin. Donc, tout à l'heure, on parlait de cas, de propos homophobes, etc. Mais bon, au niveau de la transphobie, on retrouve un peu le même fonctionnement, quoi.
Bah, je crois que ça remet encore plus en cause, les normes de la société, parce qu'elles sont quand même vachement basées sur le fait de rentrer les individus dans des petites cases et des petits cadres, etc. Et le genre
bien les petites cases.
En est un énorme, et en fait, faut correspondre à son genre à la naissance naturelle, et dès qu'on n'est pas forcément dans ce genre-là ou dans les stéréotypes qu'on accole à ce genre-là, au genre masculin ou au féminin, ou que on se sent pas bien dans ce genre-là et qu'on a envie d'être dans un autre genre, mais je pense qu'il y a plein de genres,
oui, il y a toute une panel
palette voire de non-genres, n'est-ce pas, et à partir du moment en fait où on bouscule un peu ces cadres-là, je crois qu'on les bouscule encore plus que dans l'homosexualité, qui finalement n'est qu'une orientation sexuelle, mais pas forcément une remise en cause du genre. Elle l'est un peu, mais moins que la question du transgenre.
C'est vrai que la question du transgenre, ça renvoie aussi à son propre corps, à la propre image que l'on a. Et donc ça suscite des interrogations, parce que tout le monde ne s'est pas forcément posé la question de qui il est. Il est la personne qu'il est depuis sa naissance, il a grandi et puis ça continue. Alors que pour le transgenre, lui, il a été la question est venue se poser très fortement. Et le problème des cases, on le retrouve même auprès des médecins que l'on va consulter, parce que pour le cas par exemple de transsexuels qui sont en plus homosexuels, ça commence à évoluer, mais jusqu'à il y a peu, ça posait de très gros soucis, ça bouleversait encore plus ce qu'ils pensaient avoir compris de la transsexualité, et du coup ces gens-là se retrouvaient encore plus dans une situation de minorité et d'exclusion.
Ça me fait penser à la situation en Iran. En Iran, on peut être transsexuel, mais pas homosexuel.
Oui.
L'homosexualité est passible de peine de mort, mais en revanche, on peut être transsexuel et se faire opérer, et il n'y a pas de souci.
Parce qu'en fait, ils ne dissocient pas la question de genre de la question d'orientation sexuelle. Oui. Tout le monde doit être hétérosexuel, donc si tu es attiré par un homme et que tu es un homme, tu dois devenir une femme. Et pareil, pour une femme qui est attirée par une femme, elle doit devenir un homme. Et c'est comme ça qu'on arrive à des cas dramatiques dont on avait déjà parlé, de gays qui sont obligés de se faire opérer alors qu'ils se sentent très bien dans la peau d'un mec, parce que sinon, ils sont exécutés, quoi. Voilà, point.
Mais on est en train de se répéter, là. C'est assez hallucinant, d'une émission sur l'autre.
Je pense qu'on fait trop d'émissions, je pense.
C'est ça, oui. Bon. Bien. Clara me montre sa montre parce que bientôt ce sera la chronique de Clara. Je vais remercier Evan, je vais remercier Émilie, merci beaucoup à tous les deux.
Merci
de nous avoir reçus.
Voilà, on va redonner l'adresse de votre site, hein, c'est http://ftm-transsexuel.info. http://ftm-transsexuel.info. Vous pouvez y aller chercher des infos d'ordre administratif, d'ordre chirurgical, d'ordre culturel, et des sites de qualité bien informés sur l'FTM, il n'y en a pas tant que ça. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, tout ça ce sera sur Grenoble LGBT, vous inquiétez pas. Et maintenant nous allons laisser la place à nos sorcières de ce coupable vaisseau intersidéral. Bonjour, Claire.
Bonjour, commandant Ben.
Comment va ?
Donc aujourd'hui, cher commandant Ben, c'est un texto qui m'est parvenu de mes condisciples hétéros, un texto de Jones envoyé par Steven. Alors Steven, 19 ans, qui fait des études de roulage, découpage, pliage et tassage en deuxième année de master de phytothérapie appliquée. Un domaine très pointu, voire conique, il me semble. Alors, j'essaye de déchiffrer le texto. Visiblement, il l'a écrit en cours, c'est un peu confus. Donc, Steven me demande pourquoi que sa meuf, elle est plus pareille depuis qu'elle traîne tous les samedis avec une lesbienne. Ta question est très pertinente, Steven. En effet, existerait-il une hormone, une molécule, une sorte de micro-organisme invisible, car micro, donc forcément invisible, spécifique aux lesbiennes, qui modifierait par un processus d'auto-assimilation très complexe, une sorte de photosynthèse mais sans chlorophylle, donc qui transformerait automatiquement toutes les femmes passant aux alentours d'une lesbienne? Certaines études semblent déjà le démontrer. Ainsi, dans les années 80, une épidémie de justaucorps fluo et de guêtres en laine s'est abattue sur la France entière tous les dimanches matins, contaminant les femmes de notre belle nation. Épidémie provoquée par un virus très contagieux, le VVD. Le virus Véronique et Davina. Mais attention qu'on ne me taxe pas de lesbophobie, je ne pourrais y survivre, car dans toute évolution, dans toute modification, comme disait Darwin, parfois il y a des couilles, ou plutôt dans ce cas précis, des ovaires, et c'est ce qu'était le virus Véronique et Davina. Car en définitive, la lesbienne constitue la forme la plus évoluée de l'espèce Homo ovarus feminae, de la femme quoi, résultat de millénaires de sélection naturelle face à son prédateur le plus direct, l'homme. Alors, cher Steven, cher papa, cher maman, hétéro du monde entier, Kofi Annan, Ségolène, mon chat, public chéri, mon amour, pourquoi la lesbienne sauvera la femme ? Et là, je dois faire un petit flashback, autrement appelé retour en arrière. Je plante le décor. Grèce, 6e siècle avant JC, Jean-Christophe. Île de Lesbos, sable fin, mer émeraude, cocotier, typon chez Cariaoka. Première découverte d'une lesbienne clairement identifiée. Elle s'appelait Sappho, et déjà c'était une rebelle qui allait faire chier les mecs en écrivant des poèmes dont ils n'étaient même pas les héros. Bon, après on passe, Moyen-Âge, Inquisition, torture, la fameuse question restée dans l'histoire sous le nom de question, ou comment titiller des mamelons jusqu'à en crever et avouer que oui, vous avez honteusement copulé avec Blanche-Neige, les sept nains, la sorcière et même plus récemment Superman, ce qui vous a définitivement convaincu de votre lesbianité. Donc après, bûcher, flamme de l'enfer, barbecue, merguez, michoui, autre kebab, 17e, 18e siècle, rien de très intéressant, 19e siècle, une information, y paraîtrait-il que George Sand, non, si, paf, trois guerres, dont deux mondiales, et plus six affinités, petit triangle noir et boule à zéro réglementaire, et là, des méchants mal intentionnés racontent que c'est là que les Butch ont appris à se coiffer. Bon, c'est celle-là où j'ai très honte. Et heureusement, un beau jour de printemps. C'est parce que je viens d'arrêter de fumer, c'est pour ça me stresse. Et heureusement, un beau jour de printemps est arrivé. La militante MLF, mouvement de libération de la foufoune, qui nous a dit, femmes du monde entier, donnez-vous la main, le doigt et la langue. Luttons contre le grand capital phallocrate, contre la dictature de la bitoisie. Libérons les grandes et les petites lèvres, toutes ensemble pour l'indépendance du clitoris. Boutons les pénis hors du vagin. Halte aux dictats sexistes. Vive les poils, les cernes du matin, les pantalons en peau de chameau et les godes customisés. Et là, ce fut l'illumination. Telle la Vierge à Jeanne d'Arc, sur sa harlée toute de cuir vêtue, sainte lesbienne m'apparut. Et son message était lumineux. Ton corps t'appartient, tu n'es pas qu'un vagin. Jamais plus à un homme tu te soumettras, le plaisir clitoridien tu connaîtras. Et là j'ai poussé un cri. Ah ! Ô grande déesse guerrière, Athéna des passions, amazone de mon cœur, Valkyrie des vallons, des falaises sur ton fier destrier, je suivrai ton chemin, et dans ta lumière violette et jaune, fièrement je me tiendrai. Tout à coup, des femmes, plein de femmes, sont arrivées de partout pour entendre l'enseignement de sainte lesbienne, et toutes ensemble nous avons chanté. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, nous les femmes serons le genre humain. Bon, là, prise dans l'euphorie grisante des chansons paillardes et de la bière qui coulait à flot, on s'est un peu emballé. On avait oublié que pour continuer à proliférer, fallait des spermatozoïdes et malheureusement, on n'a pas encore trouvé le moyen d'en produire en série. Donc on est rentré chez nous. Mais on n'a jamais oublié les commandements de Sainte Lesbienne. Depuis ce jour-là, Sainte Lesbienne répand sa parole libératrice et émancipatrice à travers les lesbiennes du monde entier qui la transmettent aux hétéros, aux bi, aux indéterminés, aux asexués, enfin bon, à toutes les nanas. Et un jour viendra où toutes les femmes du monde se donneront la main, s'éclateront au pieu, avec ou sans mec, et jetteront au feu leur épilateur électrique. Un jour où la lesbienne sauvera la femme. En attendant, c'est le lendemain qui chante. Steven, sois très gentil et attentionné avec ta chérie. Documente-toi, voire informe-toi auprès de la copine lesbienne si tu veux que ta meuf se barre pas avec une belle blonde platine au sein siliconé ou une petite brune au sourire coquin. Voilà, Steven, la réponse à ta question existentielle. J'espère qu'elle t'a apporté les éclairages nécessaires quant à ton avenir. Pas forcément assuré, mais c'est pas grave. J'attends, chers condisciples hétéros, avec impatience de vos nouvelles. Faites pas trop de mômes en mon absence, il y en a déjà bien assez. Et bon vent.
Merci Clara, c'est toujours rafraîchissant quand tu nous parles de bitorjoisie. Non, je sais pas compris.
C'est bitoisie.
Ah, la bitoisie. La bitoisie. Bien, et eh bien, c'est...
Une petite remarque, je ne savais pas que Frédéric Chopin était lesbienne, mais bon, on en apprend tous les jours. Tu sais, quand tu parlais de Georges Sand du 19e et de tout ce qui s'était passé, c'était quand même son grand amour.
Oh, ouais, mais elle s'appelait Georges quand même.
Ouais, d'accord.
Et voilà, on va laisser de côté cette archive pour revenir dans le temps présent, pour revenir à la chromosphère de ce 3 et 10 mars. Et puis, si jamais vous écoutez la rediffusion, on doit être quelque part entre, on doit être le 6 ou le 14, voilà. Et nous sommes en compagnie de Audrey et Caroline de l'AEMD qui veulent vont tout de suite nous dire ce que c'est que l'AEMD. Je les reçois dans le cadre de la journée, enfin des journées Eve Maison Citoyenne Sexe. Alors, bonjour les filles.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que l'AEMD ?
Donc l'AEMD, c'est l'association des étudiants en master diffusion de la culture, mmh. un master professionnel qui est dispensé à l'université Stendhal. Et cette association de filières se centre surtout sur la diffusion et l'organisation de l'événement du Printemps des Poètes sur le campus, qui se déroule en ce moment, du 3 au 16 mars. Et nous, on a eu envie aussi de faire un peu autre chose, et Eve nous en a donné l'occasion au travers de l'EMC Sexe.
D'accord. Alors, qu'organisez-vous pour l'EMC Sexe ? EMC Sexe, c'est Eve Maison Citoyenne. Peut-être, vous connaissez peut-être pas Eve sur le campus, tout ça. On resitue, hein, pour tout le monde. Donc, c'est, je sais que l'EMC, c'est deux jours de rencontres, de débats, d'activités associatives autour d'un thème. Et alors, comment vient s'intégrer la EMD là-dedans ?
Alors, l'AEMD a une image donc d'association qui s'occupe de poésie, puisqu'on organise le Printemps des Poètes. Mmh. Et donc, Eve nous a contactés en nous demandant de fournir beaucoup un bon nombre de poèmes à exposer pendant ces deux journées, donc, qui auront lieu le 10 et 11 mars au sein d'Eve. Mmh. Et donc, nous avons voulu montrer qu'on ne s'occupait pas uniquement de poésie, et on a proposé plusieurs actions pour ces deux journées.
D'accord. Comme par exemple ?
Alors, il y en a 6.
Oula.
Alors d'abord, donc, on répond à Eve tout de même en leur offrant quelques textes poétiques de poésie érotique. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle, ce qu'on a intitulé le « Lâche-toi dans les chiottes ».
Charmant.
Voilà. Et donc, ce seront les murs des toilettes d'Eve recouverts de papier blanc, où chacun pourra s'exprimer comme bon lui semble sur le thème.
De toute façon, les toilettes d'Eve sont déjà... chacun s'exprime... Non, faut pas le dire. Chacun s'exprime sur les murs des toilettes d'Eve.
Donc, il y aura ensuite, sur les vitres du Grand Café, une action qui s'appelle « C'est quelqu'un qui m'a dit ». Où les gens pourront remplir des petites cartes pour dénoncer, pour mieux dénoncer leur prochain. Qui couche avec qui fait quoi à qui. Voilà. Ensuite, il y aura des pages de test sur le sexe à remplir pour ceux qui le voudront et à déposer dans une urne, où on ne sait pas encore. Voilà, et peut-être que les résultats seront affichés si les gens le permettent.
Des pages de sexe, c'est quoi
des pages de test.
Comme un peu les tests dans les magazines féminins, mais sur le sexe.
Oui, voilà. Je vois, d'accord. Êtes-vous bonne, êtes-vous bon,
voilà,
la taille de
bon
votre pénis est-il suffisant pour aller jusqu'au fond des choses, tout ça, c'est ça.
Exactement.
Voilà.
Voilà. Ensuite, il y aura le « Dessine-moi un orgasme ».
Ouais.
Où on demandera à qui le veut de dessiner sa propre représentation de l'orgasme et de le glisser dans une petite fente de l'urne.
D'accord.
Voilà. Et il y en a encore une, peut-être, je te laisse.
Ah oui, c'est pour Audrey quand même.
Oui, alors des boîtes surprises. Donc en fait, on a voulu partir aussi sur l'idée du voyeurisme. Et donc, en partant là-dessus, on s'est dit que ce serait sympa de collecter un peu toutes les boîtes en carton, boîtes de conserve autour de nous et d'y glisser des images... érotique, un peu désuète, et puis
un peu comme celle qu'il y a sur l'affiche de Eve.
De Eve, voilà, tout à fait. Okay. Et donc on va trouver ces petites boîtes avec l'idée du trou de serrure, donc les gens qui voudront pourront glisser un œil coquin. Ah. Voilà.
Et vous savez ce que nous prépare tout en vrac ?
Oui,
oui. Tout à fait.
Dites-nous, qu'est-ce qu'il nous prépare ?
Mais on va pas gâcher la surprise quand même, mais je pense que c'est une surprise de taille.
Un très bel objet.
Ah oui, j'imagine.
Qui sera bien en évidence à l'extérieur, sur le parvis.
Voilà.
Bon, ben merci beaucoup. Moi, je vais vous dire que à jeu égal va s'organiser deux débats de 18h à 19h le lundi et le mardi. Le lundi, ce sera sur le thème actif, passif. Dans toutes les sexualités, on discute autour du thème, qu'est-ce que ça a comme importance, est-ce que ça existe vraiment, si on est tous auto-reverse ou pas. Et le lendemain, ce sera sur les discriminations sexuelles, est-ce qu'il y a un lien entre sexisme et homophobie, entre lesbophobie, gayphobie, est-ce que la transphobie c'est soluble dans la lutte contre l'homophobie, enfin voilà, autour des discriminations. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. Vous nous retrouverez sur Radio Campus. Évidemment, vous aurez des rendez-vous à ne pas manquer au cours de ces journées, puisque vous entendrez les échos de Intima Camp qui fera ses chroniques de prévention, ses lettres. Vous entendrez aussi bien deux émissions normalement par jour, Chromosphère. On vous reparlera d'Italie, de Turquie. On vous parlera... Non, une seule émission de Chromosphère par jour. Voilà, Italie, Turquie, normalement. Et puis encore la chronique de Patabiologie du 90.8 Nature en danger, où vous entendrez parler des espèces qui n'existent plus pour tout un tas de raisons sexuelles. Voilà, nous allons rendre l'antenne pour passer le flambeau à Atlantis. Au revoir Audrey, au revoir Caroline.
Bonsoir. Merci.
Et puis bah, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère bien vous rencontrer en vrai pendant cette Ève Maison Citoyenne. Un grand moment de comment dit-on déjà, déliquescence sexuelle, enfin bref, voilà. Faites-vous plaisir d'ici là et puis à très bientôt sur le 90.8. Est-ce qu'on va arriver à mettre de la musique tout comme il faut? On va y arriver. Bon, allez, vous entendrez seulement quelques gouttes de menswear avant que Atlantis vienne prendre notre place. Voilà, bonne soirée.